Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs pour le 11 juin 2025. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah et bonjour tout le monde.
Quelles sont les nouvelles financières qui ont retenu ton attention depuis la dernière semaine?
Une semaine plutôt tranquille, honnêtement. Les dernières nouvelles positives émanent du côté des négociations entre la Chine et les États-Unis. Là, semble qu'on se rapproche d'une entente. Le marché apprécie, le cours du pétrole augmente, les bourses se stabilisent. On sent que le niveau de volatilité a beaucoup baissé là, dans les dernières semaines. Donc, ça fait du bien. Là. Je pense qu'on reçoit aussi moins d'appels là, de gens inquiets. Donc, cette semaine, le TSX flat, vraiment, là, littéralement, au même niveau. On était à 26 426 la semaine passée. On est précisément au même niveau aujourd'hui. Du côté du S&P 500, on est en hausse de 1,1% cette semaine. Le Nasdaq en hausse de 1,6%. Ceci dit, encore cette semaine, le dollar canadien là, a légèrement augmenté. Donc, quand le dollar canadien augmente, ben, ça vient réduire le rendement des titres américains, donc des indices américains. Donc, ça va quand même assez bien pour le mois. Là, donc, depuis le début du mois de juin, le TSX est en hausse de 1%. Le S&P en hausse de 2%, le Nasdaq en hausse de 3%. Les taux d'intérêt là, sont très marginalement supérieurs à ce qu'ils étaient la semaine passée, donc 3,34 pour les Canada 10 ans, 4,47 pour les US 10 ans, pour les obligations du Trésor américain. J'ai fait aussi une comparaison, là, je regardais du côté obligataire, là, étant donné que les taux d'intérêt, bon, ils ont baissé un peu, mais pas tant que ça. Bon, l'indice obligation universelle est en hausse de 0,6 année à jour. Par contre, l'indice obligataire corporatif, donc il va regrouper un petit peu plus là, des obligations de banques, de compagnies d'assurance, généralement, là, quand on regarde l'indice au Canada, celui-là, année à jour, est en hausse de 1,6%. Il y a quand même un écart. C'est quoi la différence? Ben, l'indice obligation universelle, c'est beaucoup des Canada, des provinces, et avec une durée beaucoup plus longue. Donc, quand les taux d'intérêt montent, c'est vraiment un indice qui va être un peu moins performant, là. Alors que l'indice corporatif, la durée, elle est plus courte. Donc, on parle des échéances moyennes là, de 3 à 5 ans et des taux d'intérêt un petit peu plus élevés sur le portefeuille de cet indice-là. Probablement qui est un peu plus proche aussi de la réalité. Là. Nos clients détiennent beaucoup des obligations individuelles, beaucoup d'obligations bancaires, par exemple. Donc, je trouve que cet indice-là est peut-être un peu plus représentatif. Et la performance, elle est quand même bien. Là. Si on a 5 mois de fête à 1,6, ben, tu extrapoles ça sur la fin de l'année, ça fait à peu près 3,5. Et si les taux d'intérêt baissent, on pourrait aller chercher davantage. Donc, ça donne une bonne idée là, de la performance du marché obligataire.
Oui, puis je pense que tu dis que les gens appellent un peu moins. Je pense qu'on s'habitue à la situation actuelle.
Ouais.
Et moi, je dis souvent, ça prend environ 6 mois. Fait qu'on est dans les 6 mois à s'habituer à une nouvelle circonstance.
Exact.
Donc, merci beaucoup, Martin. Aujourd'hui, nous voulons adresser une question que nous avons souvent des clients. On l'a déjà abordée de différentes façons, ouais, mais ça vaut la peine de se concentrer dessus. Est-ce qu'on doit réduire le risque dans son portefeuille en vieillissant? Souvent, dans des rencontres clients, quand on rencontre des nouveaux clients, on se fait dire « Ah, oh, j'approche la retraite, fait que peut-être je devrais baisser, être plus prudent. » Est-ce un réflexe prudent? Est-ce que c'est une mauvaise idée ou une vieille croyance qu'on devrait revisiter? L'idée de réduire le risque à la retraite repose sur un principe simple, hein? On a moins de temps devant soi pour récupérer d'éventuelles pertes. Et ça, je l'entends souvent. Ouais. Donc, on devrait vendre nos actions, acheter des produits plus sûrs et éviter les fluctuations. Cela peut sembler logique, mais je te pose la question, Martin, est-ce que c'est toujours une bonne stratégie?
Ben pas nécessairement. Donc, il y a ce mythe-là, donc le fait que je n'ai plus de revenus d'emploi, par exemple, souvent c'est une espèce d'inconfort. Là. Les clients, quand ils ont le portefeuille qui fluctue, ben quand ils sont au travail, ben ils vont continuer de faire des cotisations. Là, quand ils sont à la retraite, là, il n'y en aura plus de cotisations. Là. C'est que du décaissement. Et ça, c'est un certain inconfort. Donc, c'est un peu un mythe puis une demi-vérité. Là. D'abord, le vieil adage, là, on disait il y a longtemps, une espèce de règle du pouce, là, que je devrais avoir en obligation l'équivalent de mon âge. Donc, si j'ai 70 ans, j'ai 70% d'obligation et ainsi de suite. Donc ça, c'est un vieil affaire qui date d'il y a 40 ans, là, tu sais, quand les taux d'intérêt étaient à 5, 6, 7, 8 %c'était peut-être un peu plus facile aussi. Aussi, l'espérance de vie à ce moment-là, c'était comme 70 ans, tu sais. Alors qu'aujourd'hui, ben, il y a beaucoup de nos clients là, qui vont vivre en santé jusqu'à, tu sais, profondément dans la 80aine. Donc l'espérance de vie, elle est longue. Si je suis pendant 25-30 ans à la retraite, ben, j'ai un horizon à long terme, même si j'entame la retraite. Si on baisse trop le risque, donc le risque, là, puis on va peut-être dissocier deux concepts, là, le risque et la volatilité. T'sais, le risque, c'est de perdre son argent de façon permanente ou de perdre son pouvoir d'achat de façon permanente. Donc, si je me contente d'un rendement trop modeste par peur de perdre de l'argent, je risque de perdre mon pouvoir d'achat en raison de l'inflation. Donc, je dois maintenir un certain niveau de performance dans mon portefeuille à long terme pour au moins contrer l'effet de l'inflation. Donc, vraiment, là, tu sais, l'inflation, même modérée, tranquillement, pas vite, sur un horizon de 25-30 ans, là, ça gruge le pouvoir d'achat. Puis un portefeuille qui serait trop conservateur, là, va avoir de la misère à résister à ça. Donc, vraiment, il y a aussi un risque. Si j'ai vraiment un rendement moindre, tu sais, souvent quand on fait nos illustrations de retraite, on va utiliser des projections 4-5%, mettons. Tu sais, il y a une règle du pouce, là, on devrait décaisser 4% de son capital. Là, qui est encore là, une règle du pouce, c'est, on dit toujours, ça dépend en planification financière, donc ça ne s'applique pas nécessairement à tout le monde. Ben, si j'ai un rendement plus modeste, évidemment, ben, mon capital va durer moins longtemps. Et le risque de survie, tu sais, quand on fait nos illustrations jusqu'à 95 ans, les gens disent « Ah, je me rendrai pas jusque-là, tu sais. » Ah, les probabilités, là, si on est en santé à 70 ans, il y a plus de 25 % des chances qu'on se rende à 95 ans. Donc, 25 % des chances, là, si vous avez une chance sur 4 qu'il vous arrive quelque chose, tu sais, c'est un risque élevé, là, une chance sur 4. On prendrait pas ce risque-là. Et d'être encore en vie sans le sou, c'est un problème. Donc, il faut faire attention à ça.
Puis, je pense que l'important, le point important, c'est que la retraite dure longtemps et aussi, on ne décaisse pas tout de suite tout notre argent.
Ben non.
On prend un certain petit pourcentage de cet argent-là. Donc, comme tu as très bien dit, notre horizon de placement est plus long.
Ouais.
Quel est le bon niveau de risque? Donc, ça dépend de quoi, Martin?
Ben, ça va dépendre, effectivement, de l'horizon de décaissement. Donc, oui, j'arrête de travailler, donc on va établir vos besoins de décaissement. Puis si dans votre portefeuille de 1 million, vous devez retirer 40 000 par année pour vos besoins, ce serait une bonne idée d'avoir dans des placements liquides relativement court terme l'équivalent de 1 an et demi, 2 ans, 3 ans de décaissement. Donc peut-être un 40-50 000 dans un compte à intérêt élevé, puis un autre 40-80 000 dans des obligations, là, 1, 2, 3 ans, là, relativement courtes. De sorte, l'objectif, c'est de jamais être forcé de vendre des titres à perte, parce que vos besoins de décaissement, là, il faut manger, hein, donc on n'aura pas le choix de décaisser. Et si on a que des titres en action, puis on doit décaisser dans une période creuse, ben on est obligé de vendre des titres en action, donc de cristalliser des pertes qui ne reviendront jamais. Donc vraiment, là, c'est de structurer le portefeuille pour être jamais obligé de vendre à perte, donc d'avoir les décaissements là, des prochains 2-3 ans devant nous, qui sont déjà en quelque sorte assurés. Votre tolérance réelle au risque, hein? Donc certains clients qui ils veulent du rendement quand ça va bien, puis là, oups, tu sais, ça brasse. Trump, oui, mais là, cette fois-ci, c'est différent. Ben, tu sais, si vous réagissez comme ça quand il y a des nouvelles, votre tolérance au risque, elle est moins élevée que ce que vous pensiez. T'sais, la tolérance au risque, c'est pas comment qu'on se sent face au risque quand ça va bien, c'est comment on se sent face au risque quand on vient de le subir.
Puis risque, on parle de volatilité.
On parle de volatilité, là. Donc, de voir la valeur d'un portefeuille baisser. Puis, encore là, c'est une question de confort. Hein. On a un portefeuille de 1 million qui baisse de 5 %. C'est quand même 50 000, là. C'est beaucoup d'argent. On n'est pas en train de minimiser la taille de la baisse en dollars, mais une baisse de 5 %, là, c'est business as usual, là. C'est, ça fait partie du processus d'un investisseur. Donc, il faut être capable de tolérer même des baisses de 10, 15 jusqu'à 20 % et d'avoir la confiance que si on demeure investi adéquatement dans des titres de qualité, ça va remonter. L'autre point à garder en tête, on a beaucoup de clients qui ont des régimes de pension à prestations déterminées. Donc, tu sais, si 80 % de mes revenus sont assurés par la RRQ, la sécurité de vieillesse, puis mon pension d'employeur. Tu sais, j'ai pas tant de risques que ça là, à mon niveau de vie d'avoir un portefeuille qui pourrait être un petit peu plus volatile, même qu'il y a des clients que 100 % et plus de leurs dépenses sont couvertes par le RPA. Fait que,
par le RPA.
Par le régime de pension agréé de l'employeur.
Excellent. Donc, parce qu'on a parlé d'RPA il y a deux semaines.
Oui, pas des résidences de personnes âgées, là, de régime de pension agréé.
Oui.
Donc, c'est sûr qu'un investisseur devrait regarder un peu l'équivalent de son fonds de pension comme étant la portion obligataire de son portefeuille. Puis dire, bon, mais en réalité, si j'ai 50 000 par année d'une pension de la Régop, ben ce serait l'équivalent d'avoir 1 million en CPG, mettons. Ben si j'intègre dans l'ensemble de mon portefeuille l'équivalent de ce million de CPG-là, c'est quoi ma répartition d'actifs? C'est peut-être plus conservateur qu'il peut paraître, là.
Mais, puis l'inverse est vrai aussi, hein, dans le sens où il faut pas se dire, ben vu que j'ai pas de régime de pension, je devrais pas prendre de risque. Parce que souvent, le réflexe des clients, c'est celle-là. C'est de dire, ben je peux pas me le permettre. Oui, je comprends ceux qui ont un régime de pension et pourraient peut-être le faire. Non, ça dépend de toutes sortes de facteurs. Ouais. Et c'est quoi le dernier, peut-être, stratégie qui influence le risque?
Donc, tu sais, on parle de stratégie de retrait. J'ai touché un petit peu là, au point précédent. Donc, c'est-à-dire d'avoir l'équivalent de 2 ou 3 ans de décaissement. Puis, oui, vous allez regarder votre portefeuille de placement. Il valait 1 million il y a le mois passé. Puis là, ça a baissé. Ça vaut juste 940 000. Oui, l'ensemble du portefeuille a baissé, mais ce n'est pas tous les titres dans le portefeuille qui ont baissé. Donc, il faut vraiment faire une espèce de comptabilité mentale en silo, puis dire, OK, ben cette portion-là, la portion action de mon portefeuille a baissé de 50 000, mais la portion obligataire, elle n'a pas baissé. Donc, ça me permet de décaisser de cette portion-là sans problème, sans déclencher de perte, le temps que ma portion d'action remonte, qui pourra prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe.
Puis ça, c'est le rappel, puis notre job aussi, qu'est-ce qu'on fait avec les clients, c'est de leur rappeler de ces petits éléments-là. C'est quoi les vraies erreurs à éviter?
Les pièges à éviter, évidemment, c'est de réagir émotivement face au marché. Ça se peut-tu qu'il y en a qui l'ont fait dernièrement, là, il y a 2-3 mois, tu sais.
Puis la réalité, c'est qu'on n'a pas tant de clients qui ont réagi.
Non. Hein?
Très peu.
Mais quand même, on vous lit les nouvelles, on est affecté par ces nouvelles-là. Ouais. C'est la réalité, là. On n'est pas immunisé, toi et moi non plus. Tu sais, on trippe pas, là, quand il y a des mauvaises nouvelles. Il y a un certain niveau de peur, mais il faut éviter de réagir émotivement. Donc, tu sais, le courage, on dit, c'est pas de ne pas ressentir la peur, mais c'est d'agir de la bonne façon malgré la peur. Puis il faut demeurer comme ça. Tout mettre en obligation, on a vu, là, on a eu des périodes durant la COVID, ceux qui étaient hyper prudents puis qui avaient que des certificats de placement garantis, ils renouvelaient là, en 2021 à des taux d'intérêt de 0,5% garantis pour 5 ans. Puis un an après, on était dans des inflations à 7-8%. Ben là, vous avez perdu, tu sais, pendant 2 ans, 8% par année. Là, le temps que l'inflation était beaucoup plus élevée que le rendement de vos placements. Donc ça, c'est vraiment quand même un piège qu'il faut éviter. Puis ne pas revoir régulièrement la stratégie de décaissement. La vie, c'est pas un beau grand fleuve tranquille, là, tu sais, il y a des imprévus, la toiture coule, j'ai un 40 000, tu sais, si vos dépenses changent, s'il y a des projets, faut nous laisser savoir, parce que peut-être qu'on va venir dans les périodes où les marchés vont bien, ça peut être une bonne idée de capturer un petit peu de profit, remettre ça de côté, puis là, vous nous annoncez que vous avez une dépense importante qui s'en vient là, l'année prochaine, oh, ben, tu sais, la bourse, elle a bien remonté dernièrement, peut-être qu'on va prendre un petit peu de profit ici et là, pas dénaturer le portefeuille, juste d'aller capturer un peu de profit, mettre ça de côté pour les moments un petit peu plus sombres, justement pour éviter de vendre à perte lors du prochain
crash. Puis c'est pour ça qu'on vous appelle régulièrement. Des fois, vous pouvez peut-être trouver qu'on appelle souvent, mais on veut être sûr qu'on est sur la bonne voie, qu'il n'y a pas des choses qui ont changé de votre côté. Parce qu'il y a des fois dans la vie qu'il faut revoir cette stratégie-là de décaissement. Et on peut toujours remettre à jour aussi la planification de décaissement qu'on a fait. Donc, une chose aussi qui est importante de dire, c'est qu'une transition trop rapide vers un portefeuille conservateur, donc si on panique ou si on décide de tout mettre en obligation, peut aussi vous priver de croissance au moment où vous en avez besoin pour vivre votre retraite confortable.
Ouais.
Donc, alors, réduire le risque à la retraite, ce n'est ni un mythe ni une vérité absolue. C'est une décision stratégique qui doit tenir compte de votre situation personnelle, de vos objectifs et surtout, surtout, de votre paix d'esprit.
Ouais.
Merci beaucoup, Martin. Comme toujours, si vous posez des questions sur l'équilibre de votre portefeuille ou si vous approchez cette étape, parlons-en. C'est notre rôle de vous guider. Mathieu, Michel, Martin et moi sommes toujours disponibles pour discuter de vos besoins, vos questions ou objectifs financiers personnels. Communiquez avec nous. Merci pour votre écoute cette semaine et à la semaine prochaine.